Bon, on a 2 heures à peu près. Honnêtement, je ne sais pas trop combien de temps va durer l'intervention. Je vais essayer de la faire tenir dans à peu près 1 heure et demie, mais je ne suis pas trop sûr de la durée. Enfin bon, en tout cas, c'est sûr que j'ai trop de matériaux par rapport au temps là qui est donné ou que je voudrais consacrer à l'intervention elle-même pour laisser quand même un peu de discussion, place à un peu de discussion tout à l'heure. Je me disais, c'est en fait quelle raison on peut avoir de faire un séminaire? Pourquoi faire un séminaire? Pour essayer de travailler, c'est sûr. Pour essayer d'y voir plus clair, c'est sûr aussi. Je pense que une réponse qui m'est venue, en tout cas, c'est on fait un séminaire pour essayer d'être délivré de sa pensée. Et je vois au moins 2 façons d'être délivré de sa pensée. C'est soit par réfutation, c'est-à-dire que quelqu'un vous délivre de votre pensée, de ce que vous pensiez jusque-là, parce qu'il vous montre que ça ne tenait pas et que donc il faut penser autre chose. Soit par partage. Donc il y a toujours cette espérance quand on fait un séminaire que quelqu'un va soit vous montrer que vous vous trompez, soit vous dire pourquoi il faut prolonger ce que vous avez dit. Alors là, moi j'ai déjà de la chance parce qu'on fait déjà le séminaire à deux, donc il y a déjà du partage. Mais en tout cas, il me semble que c'est ça qui justifie le fait de faire comme ça, de proposer comme ça un séminaire. C'est la visée qu'on peut avoir, pas forcément de constituer un collectif de recherche ici, mais qu'en tout cas, il y ait quelque chose qui devienne un lieu de partage, que ce ne soit pas un terme vain, quoi, une invocation vaine. Ou alors, être réfuté. C'est très agréable d'être réfuté, ça n'arrive pas souvent. En fait, ça arrive assez. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive beaucoup, mais moi, ça m'est rarement arrivé. Et c'est quelque chose aussi d'assez agréable, finalement. Être délivré de quelque chose qu'on pensait jusque-là et qui ne tient pas. Donc, si vous voulez me réfuter, surtout, n'hésitez pas. Alors, je voulais commencer par un rappel assez rapide, hein, de la première séance. On était parti. Du cours de Foucault, du cours de 76, donc il faut défendre la société, et de sa critique du schème de la guerre, sa critique du schème de la guerre et de la manière dont ce schème est utilisé pour penser la politique. Critique qui était aussi une autocritique, parce que lui-même considérait qu'il avait abusé de ce schème dans les années précédentes. Donc critique du paradigme de la guerre pour penser les situations politiques. L'enjeu du cours de 76 devenait alors une sorte de généalogie de la guerre comme modèle d'intelligibilité de la politique. Ce qu'on avait vu, c'est que, en s'appuyant sur des études antérieures, hein, faites par d'autres, c'est que, au-delà de la guerre, finalement, ce que trouvait Foucault, c'était un autre paradigme qui était celui du gouvernement. Donc, on passait du paradigme de la guerre au paradigme du gouvernement. Ça, c'était la première idée importante. Le gouvernement entendu donc comme ce qui permet de conduire à la conduite des hommes. Ça, c'est la définition qu'il donne dans le cours de 80 qui s'appelle Du gouvernement des vivants. Conduire à la conduite des hommes. Il dit à cette époque-là, c'est une notion plus opératoire que celle de pouvoir, le gouvernement. Alors, le gouvernement, ça permet la notion de gouvernement, le concept de gouvernement, le concept de gouvernementalité, comme il le disait, permettait donc de tenir à distance le paradigme de la guerre, permettait aussi de régler finalement la polémique que Foucault avait eue avec le marxisme et de mettre à distance définitivement l'économisme, c'est-à-dire l'idée que les situations historiques et politiques sont déterminées par l'infrastructure économique. Et on se disait justement que finalement, c'était ça qui faisait le cœur du marxisme, cette conjonction, ce nouage finalement entre l'économisme et le paradigme de la guerre. D'une certaine manière, ce livre dont je vous ai parlé la dernière fois, mais que je n'ai pas eu le temps de travailler et sur lequel je reviendrai dans la quatrième séance, me semble revenir de Lazzarato à Liez, qui s'appelle Guerre et Capital, me semble revenir justement à ce noyau du marxisme qui consiste finalement à énoncer l'économie comme guerre. Bon. Alors, passer du paradigme de la guerre à celui du gouvernement, c'était pas seulement passer d'un paradigme à l'autre, c'était aussi changer l'usage même du paradigme. Parce que guerre et gouvernement ne font pas paradigme du tout de la même manière. Finalement, la guerre comme modèle ou comme paradigme de la politique, dans le marxisme, la guerre, c'est le moteur de l'histoire et c'est un peu, disons, la raison cachée des situations politiques. En ce sens, on peut le rapprocher du paradigme au sens platonicien, enfin un des sens platoniciens que l'on a vu, puisqu'on a distingué dans Platon plusieurs sens, ça je ne vais pas y revenir, parce que pour le moment c'est très latéral. À savoir, le paradigme idée, le paradigme qui donne la raison cachée des phénomènes, finalement. Raison cachée parce qu'il faut remonter la pente de la caverne pour aller trouver derrière les apparences ce qui en est la raison première. De la même manière, il faut ne pas s'en tenir à ce qu'est la paix de l'ordre bourgeois pour débusquer derrière cette fausse paix la lutte, la guerre des classes ou la guerre des races comme dans le XVIIe siècle anglais qu'analysait Foucault, derrière la fausse paix du souverain. Donc, à cette idée à cette conception-là du paradigme modèle, comme raison cachée des phénomènes, Foucault opposait finalement le modèle entendu comme mise en intelligibilité. Mise en intelligibilité, ça veut dire dégager les conditions de possibilité qui ont permis que ce réel existe. Il dit dans Naissance de la biopolitique, un passage de Naissance de la biopolitique, que le réel soit possible, c'est ça sa mise en intelligibilité. Donc, le modèle d'intelligibilité, le paradigme entendu comme modèle d'intelligibilité, ce n'est ni une raison cachée, ni un principe d'explication généralisé, parce que cette mise en intelligibilité, ça permet de penser justement la singularité des situations historiques. Alors ça, je ne vais pas trop développer maintenant parce qu'on va y revenir. Patricia va beaucoup en parler la prochaine fois. Et moi aussi dans la quatrième séance. Donc les séances 3 et 4 vont être beaucoup centrées sur cette question de la pensabilité, la possibilité de penser la singularité des situations, de penser la singularité, en se débarrassant autant que possible des faux paradoxes. Faux paradoxes, on verra pourquoi ils sont faux, attachés à l'idée que on ne peut pas penser le singulier puisque penser, c'est se mettre dans l'ordre de la généralité, etc. Alors, ça fait bien longtemps que l'enjeu pour beaucoup de penseurs, c'est de penser la singularité, donc on verra de quelle manière on peut reprendre cette perspective-là. C'est pas nouveau, hein, mais c'est toujours aussi important. Alors, ni une raison cachée, ni un principe d'explication généralisée, ni la clé d'une époque, parce qu'il n'existe pas quelque chose de tel qu'une époque, c'est-à-dire une sorte de contemporanéité homogène, comme ça. Ce qui existe dans un temps donné, c'est toujours une différence entre plusieurs temps. C'était un passage, on avait lu, je pense, ou peut-être je ne l'ai pas lu finalement, un passage de l'archéologie du savoir, où Foucault contestait justement l'idée qu'en fait, il ferait une analyse qui mettrait au jour le discours général d'une époque donnée. Il n'y a pas d'époque dans l'approche de Foucault. Alors, ce qu'on a retenu aussi de cette notion de paradigme, c'est qu'elle convoque généralement une image. il y a une dimension du faire voir qui est irréductible au dire, y compris dans le dire. Ça, c'est ce que disait Wittgenstein, par exemple, et cela tient aussi à l'usage des paradigmes. On pourrait dire que la mise en intelligibilité contient un faire voir qui excède le dire, sans être pour autant une intuition extra-discursive. Le paradigme, par exemple, le panopticon, le panoptique, hein, l'architecture panoptique, ça c'était un des exemples pris qui structure donc surveiller et punir, l'analyse de surveiller et punir. C'est un objet, disons, auquel est conférée la capacité à être plus que lui-même. Et c'est en cela qu'il fait image. Bon, alors, on avait insisté donc dans la première séance sur le paradigme entendu comme modèle, avec ses deux sens différents du modèle. Le paradigme modèle au sens platonicien comme raison cachée et le paradigme entendu comme mise en intelligibilité d'une situation donnée. On avait fait brièvement une distinction entre plusieurs sens, une première différence entre plusieurs sens du paradigme, le paradigme entendu comme modèle, le paradigme entendu comme exemple et le paradigme entendu comme analogie. Alors, la séance prochaine sera consacrée notamment à la notion d'exemple à travers l'analyse de Rancière, l'analyse des cas ou des moments de la politique. C'est Patricia qui le fera. Là, je voudrais aujourd'hui parler de l'analogie, mais en fait, je vais aussi parler du modèle. Et ça, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ce qu'on s'était dit, c'est que finalement, il y a entre les trois sens qu'on a distingués, hein, modèle, exemple, analogie, il y a du jeu. Il y a du jeu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer vraiment, on ne peut pas dessiner de frontières étanches entre ces différents sens. Et donc, il y a des passages. Si on utilise l'une de ces dimensions, on convoque toujours un peu les autres. On verra ce que tu en diras la prochaine fois. Donc il ne faut pas abolir le jeu, mais laisser du jeu justement sur cette notion de paradigme et ces différentes acceptions, ces différentes ententes. Alors il nous fallait reprendre la question. Le paradigme de la gouvernementalité est-il adéquat pour penser le présent ? On s'était dit que ce nouveau paradigme dégagé par Foucault et son nouvel usage n'offraient finalement qu'une saisie incomplète de la politique. D'une part, parce que le gouvernement, le paradigme du gouvernement permet de saisir et de comprendre avec une certaine finesse les opérations du pouvoir, l'idée en particulier du biopouvoir, parce que c'est à partir de sa réflexion sur le biopouvoir finalement qu'il arrive à ce paradigme du gouvernement, ce qu'il appelle donc le biopouvoir. Donc le paradigme du gouvernement permet une certaine finesse dans l'appréhension des opérations du pouvoir, mais laisse de côté la dimension de la politique envisagée comme ce qui va s'opposer ou ce qui va se confronter ou ce qui va chercher à échapper aux opérations du pouvoir. La notion de gouvernement n'en dit pas grand-chose et ne permet pas forcément d'en saisir grand-chose. En tout cas, c'était un soupçon. Il y aurait à discuter à l'intérieur de Foucault hein, là, sur ce point-là, mais l'hypothèse qu'on faisait, c'est que la politique, finalement, continuait de se jouer dans le conflit des vérités. Et ça, il s'agira de voir comment, mais on y reviendra que dans la deuxième séquence. Sur Foucault, on y reviendra que dans la deuxième séquence. Donc, je vous avais dit, hein, il y a une première séquence là de octobre à décembre, il y aura une deuxième séquence de mars à mai. Hein. Et on avait terminé à peu près sur l'idée qu'il y avait donc le paradigme du gouvernement ne permettait pas vraiment de penser de façon satisfaisante la politique en tant qu'elle se confronte aux opérations de pouvoir, la politique opposée à la police, pour parler dans les termes de Rancière, mais qu'il y a un autre problème lié à ce paradigme, c'est qu'il est peut-être insuffisant même du côté du pouvoir, même pour penser les opérations de pouvoir. D'où la question, faut-il faire retour au paradigme de la guerre pour penser non seulement la politique, mais les opérations du pouvoir lui-même ?